Voilà, je prends la parole pour déjà vous dire bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue encore à ce culte en ligne. Ça y est, nous sommes au sixième jour de confinement, presque une semaine. Et j'imagine que vous avez déjà pris un peu vos marques, même si ce n'est pas facile pour tout le monde. Et vivre un culte dominical à distance, ce n'est pas facile non plus. C'est même loin d'être idéal. Que cette période nous conduise à chérir encore plus nos rassemblements physiques. Et pour l'heure, c'est le moment de nous mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. L'une des expériences les plus angoissantes pour les croyants, c'est lorsqu'ils se mettent à douter qu'ils passeront l'éternité avec Dieu. D'une manière parfois inexpliquée, ils remettent en question tout ce qu'ils savent sur Dieu, sur le salut par grâce, sur l'œuvre de Jésus pour leur salut. Ils comparent leur vie à celle des autres chrétiens et ils voient que leur propre vie est encore si loin des attentes de Dieu. Et ils se disent finalement, et si je m'étais trompé? Si je m'étais trompé en croyant être sauvé alors que je ne le suis pas? Leur culpabilité est parfois tellement démesurée qu'ils ne voient plus la réalité que Dieu fait grâce encore et qu'il pardonne. Ils se voient déjà en enfer avec tous les rebelles et le diable. En un mot, ces chrétiens expérimentent la perte, en quelque sorte, de leur assurance du salut. Et c'est une expérience angoissante, n'est-ce pas? Peut-être l'avez-vous déjà vécu. En tout cas, si vous croisiez de tels croyants, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les rassurer? Le texte d'aujourd'hui pourrait nous donner quelques arguments, mais en fait, il ne commence pas avec la question de l'assurance du salut, mais par le commandement de s'aimer les uns les autres. Quel est le rapport entre l'assurance du salut et l'amour fraternel? Alors, pour le savoir, je vous propose de lire ensemble le texte d'aujourd'hui, le texte de cet après-midi, dans la parole de Dieu. Qui se trouve donc dans 1 Jean, chapitre 3, des versets 11 à 24. Et je vais laisser Damaris lire le texte pour nous.
En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. Que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. L'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? De par l'Esprit qu'il nous a donné.
Merci pour la lecture. Nous poursuivons donc notre série de prédications sur la première épître de Jean. Il y a deux semaines, nous avons abordé le début du chapitre 3, où Jean affirme avec force qu'un enfant de Dieu ne pèche pas. Au contraire, un enfant de Dieu pratique la justice. Il fait ce que Dieu considère comme juste. Il a rompu avec le péché parce qu'il a commencé une vie nouvelle. C'est bien entendu un encouragement à marcher dans la pureté, dans la sainteté, dans l'obéissance à Dieu. Et notre passage d'il y a deux semaines se terminait sur l'idée que celui ou celle qui n'aime pas son frère n'est pas un enfant de Dieu. Et c'est pour cela que nous parlons dans le texte d'aujourd'hui de l'amour fraternel. Jean avait déjà enseigné sur ce thème au chapitre 2. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et ici, l'apôtre ne parle pas seulement de l'amour, il le rattache à un autre thème de cet épître, l'assurance du salut. L'assurance du salut, c'est-à-dire la certitude que les péchés, que leurs péchés sont pardonnés, puisque Jésus est mort pour leurs péchés à la croix. La certitude qu'ils sont réconciliés avec Dieu, qu'ils sont en relation étroite avec celui qu'ils appellent désormais Père. Et puis enfin, la certitude que Dieu les rendra un jour semblables à Christ, saints, irréprochables, et qu'ils vivront pour toujours avec leur Sauveur. Voilà ce qu'est l'assurance du salut. Jean passe donc du thème de l'amour fraternel à celui de l'assurance devant Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers ce texte que nous avons lu ? Il me semble que le message central est que Dieu veut que nous nous aimions par des actes concrets et qu'ainsi nous soyons pleins d'assurance devant lui. Dieu veut que nous nous aimions par des actes concrets et qu'ainsi nous soyons pleins d'assurance devant lui. Ce sont ces deux aspects sur lesquels je mettrai l'accent aujourd'hui. Un amour fort et une assurance forte. Commençons par l'amour fort. Tout au long de sa lettre, l'apôtre Jean est dans ce mode binaire où il n'existe pas de juste milieu. La lumière est opposée aux ténèbres, la vérité au mensonge, l'amour à la haine. C'est aussi le cas dans notre texte. D'un côté, Jean va affirmer de manière positive que nous devons aimer nos frères et sœurs. Et de l'autre, il présente de manière négative ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et nous avons cette alternance tout au long des versets 11 à 18. Je relis avec vous le verset 11. « En effet, voici le message que vous avez entendu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres. » Et que personne ne suive donc l'exemple de Caïn, qui était du diable et qui a égorgé son frère. Et pourquoi l'a-t-il égorgé ? Parce que sa façon d'agir était mauvaise, alors que celle de son frère était juste. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Jean rappelle à ses destinataires que c'est le message initial qu'ils connaissent, qu'ils ont entendu dès le commencement de leur vie chrétienne. Et s'il est donné au début de la vie chrétienne, combien ce message est important. Aimons-nous les uns les autres. C'est le commandement que Jésus a donné à ses disciples. Et sans transition, Jean cite au verset 12 le contre-exemple de ce qu'il vient de dire. Caïn, l'assassin de son propre frère. Dans Genèse 4, nous lisons l'histoire de ce Caïn, le fils aîné d'Adam et d'Ève. Il avait un frère, Abel. Et les deux frères avaient présenté leurs offrandes à Dieu. Et Dieu avait approuvé celui d'Abel, mais non celui de Caïn. Et voyant cela d'un mauvais œil, Caïn a tué son frère. Le premier fratricide de l'histoire humaine a eu lieu lorsque Caïn n'agissait pas de manière juste, contrairement à son frère. Caïn n'agissait pas de manière juste, contrairement à son frère. Caïn est le triste exemple de celui qui a détesté son frère parce que ce dernier était juste, parce que ce dernier faisait la volonté de Dieu. Et de la même façon, Jean évoque au verset 13 la haine du monde à l'égard des chrétiens qui pratiquent la justice, à l'égard des chrétiens qui font la volonté de Dieu. Oui, le monde qui ne connaît pas Dieu a de la haine pour les chrétiens. D'après Portes Ouvertes, l'organisme qui se tient aux côtés des chrétiens persécutés, un chrétien sur huit connaît une forte persécution dans le monde. Un chrétien sur huit, soit plus de 260 millions de personnes dans le monde. 260 millions de personnes. Ceux qui sont justes, ceux qui agissent bien, dérangent dans ce monde. Et après la haine, Jean revient à l'amour, verset 14. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Les chrétiens à qui Jean s'adresse ne savaient plus trop s'ils étaient sur le bon chemin, parce que d'autres leur disaient qu'ils avaient reçu une soi-disant révélation supérieure. Ces autres personnes avaient quitté l'Église et troublé ces chrétiens par leur enseignement. Mais Jean veut les rassurer. Le fait d'aimer leurs frères et sœurs dans la foi est la preuve qu'un changement a été opéré par Dieu en eux. Le passage de la mort à la vie indique qu'ils ont changé de camp. Ils étaient parmi celles et ceux qui vivaient sans Dieu. Ils étaient morts spirituellement, mais un jour, Dieu s'est révélé à eux. Ils ont cru en Jésus et ont commencé à obéir à tout ce qu'il avait ordonné. Et nous aussi, si nous aimons nos frères et sœurs comme Jésus l'a commandé, nous avons la certitude, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie éternelle. Et à contrario, celui qui n'aime pas demeure dans la mort, verset 14. Celui qui n'aime pas, celui qui déteste, celui qui a de la haine, est un meurtrier. Les mots sont forts. Et en effet, quand quelqu'un déteste son frère, sa sœur, il commence déjà à ressentir les émotions qui précèdent le meurtre. Regardez ce que Caïn a fait à son frère qu'il détestait. L'apôtre Jean était là quand Jésus l'a enseigné lui-même dans son sermon sur la montagne. Et voici, je lis dans Matthieu chapitre 5, les versets 21 à 22. Voici ce que Jésus dit. « Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répandra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère, on répondra devant le tribunal. Jésus met en parallèle la colère et le meurtre, parce que l'une précède l'autre. Et ce n'est pas extrême, c'est vraiment ce qui se passe en nous si de tels sentiments négatifs nous animent. Mais en tant que chrétiens, nous devons clairement rejeter de tels sentiments qui sont si contraires au modèle que nous voulons suivre. Et ce modèle, bien sûr, c'est celui du Christ. Verset 16. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour nos frères. Ce verset, 1 Jean 3,16, nous donne la définition de l'amour par excellence. L'accent est mis sur l'acte volontaire de Jésus. Il donne sa vie. Et la vie, c'est quand même ce qu'il y a de plus précieux. Le don de sa vie, c'est une référence à la croix, ce sacrifice si nécessaire à notre salut. Oui, il a donné sa vie, autrement dit, il est passé par la mort, lui, l'innocent, qui ne méritait pas de mourir. Et il a donné sa vie pour nous, alors que nous méritions de mourir à cause de nos péchés. Et Jésus l'a fait par amour pour nous. Il a supporté les coups de fouet. Il a supporté les clous aux mains et aux pieds. Il a supporté la couronne d'épines sur la tête, ainsi que les moqueries et les insultes. Jésus a exprimé ce qu'il y a de plus fort dans l'amour. Il dit lui-même dans Jean 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Jésus a fait cela pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous passions du statut d'ennemi de Dieu à ami de Dieu. Et l'exhortation pour nous est de suivre l'exemple de Jésus. À notre tour, nous devons donner notre vie pour nos frères. Comme il nous a aimés, c'est ainsi que nous devons aimer nos frères et sœurs. Bien sûr, donner notre vie ne sera pas à prendre en premier au sens littéral. Peut-être uniquement dans certaines situations extrêmes. Mais la plupart du temps, et dans notre contexte, donner sa vie pour nos frères et sœurs, cela signifie donner de son temps, donner une partie de sa vie aux autres. Il y a forcément une notion de sacrifice dans cet amour. Cela veut dire aussi placer l'intérêt de l'autre avant le sien, servir son frère, sa sœur, et d'autant plus quand il ou elle est dans le besoin. Et pour que cela soit bien clair, Jean donne encore un contre-exemple au verset 17. « Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. » Et cela nous remet peut-être en question en lisant ce verset 17. Nous arrive-t-il de voir un frère ou une sœur dans le besoin, quel qu'il soit, et de lui fermer notre cœur, de l'ignorer, de penser d'abord à notre propre intérêt? Dans l'exemple donné ici, la personne a la capacité matérielle ou financière d'aider un frère dans le besoin, mais cette personne ne le fait pas. Et nous sommes d'accord ici pour dire que ce n'est pas l'amour de Dieu qui l'anime. Est-ce que nous nous reconnaissons dans cette attitude? Nous lisons dans le livre des Actes que les tout premiers chrétiens s'aimaient tellement qu'ils partageaient même ce qu'ils possédaient comme bien, de telle sorte que personne n'était dans le besoin. Vous vous rendez compte qu'ici, ces premiers chrétiens agissaient à l'exact opposé de l'attitude qui est décrite au verset 17. Mais continuons avec le verset 18. « Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Que notre amour, les uns pour les autres, soit sincère et qu'il s'exprime par des actes et pas juste par des paroles. Les mots ont leur place dans l'amour, mais ils ne suffisent pas. Si Jésus s'était contenté de dire qu'il aimait le monde, sans aller jusqu'à la croix, cela aurait-il eu le même impact sur nous? Est-ce qu'on aurait été touché par cet amour, Jésus disant qu'il aime le monde, sans plus? Non, l'amour, à l'exemple de Jésus, est un amour qui se donne et qui se manifeste par des actes. Et vraiment, nous avons à apprendre non seulement des premiers chrétiens, mais de ce qui nous est dit ici. Que nous soyons vraiment prêts à donner de nous-mêmes. L'amour, comme Dieu le définit, est un amour qui se donne. Et dans ces temps de confinement, n'oublions pas nos frères et sœurs. Continuons, durant cette semaine, à aimer par des actes concrets. Téléphoner, envoyer un message ou un email, partager un verset, un chant pour encourager, rendre peut-être un service. Prenons encore du temps pour prier pour les autres et également avec les autres. Le confinement sert à nous protéger, mais rester chez soi à longueur de journée peut être vraiment difficile pour certains. Alors sachons les soutenir si nous connaissons leur situation. Peut-être plus particulièrement les personnes qui vivent seules. Et si un frère ou une sœur a besoin de parler et que nous avons du temps, saisissons l'instant pour l'appeler, pour prendre de ses nouvelles. Et puis, laissons Dieu nous inspirer avec d'autres idées. Je sais que vous avez déjà commencé à veiller les uns sur les autres, mais demandons encore à Dieu son aide pour que nous puissions progresser ensemble dans l'amour. Parce que nous pouvons encore faire mieux. Nous pouvons encore aimer mieux nos frères et sœurs. Nous pouvons aimer peut-être particulièrement ceux que nous ne connaissons pas encore durant cette période. Et à cet effet, je vous proposerai un défi collectif à la fin de ce message. Nous venons de voir que l'exhortation de Jean va dans le sens de ce que Jésus a commandé à celles et ceux qui le suivent. L'amour réciproque, un amour fort, puisqu'il s'agit de donner sa vie, un amour concret, puisqu'il s'agit de l'exprimer par des actes. Et c'est effectivement l'amour en action, d'après l'apôtre Jean, qui va nous conforter dans notre assurance chrétienne. Et c'est ce que je voudrais voir avec vous, une assurance forte. Après un amour fort, une assurance forte. Et cela va concerner les versets 19 à 24. Tout ce qui a été dit précédemment au verset 11 à 18, et plus particulièrement peut-être le dernier verset, le verset 18, doit conduire les chrétiens de l'époque, comme de notre époque, à cette certitude que nous lisons au verset 19. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité. C'est ainsi, c'est-à-dire, qui renvoie au fait de s'aimer les uns les autres. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons notre cœur devant Dieu, si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît tout. Jean s'adresse à des chrétiens qui sont hésitants encore, qui se posent des questions, et à qui il arrive de douter. Mais c'est l'amour qu'ils ont les uns pour les autres qui doit les rassurer. En manifestant leur amour par des actes, ils agissent vraiment comme Dieu le veut. Et s'ils agissent ainsi, ils sauront. Voyez le verbe « savoir » ici. Et le verbe « savoir » chez Jean est toujours significatif. S'ils agissent ainsi, ils sauront qu'ils sont du côté de la vérité. Leur cœur, à comprendre ici comme un synonyme de la conscience, leur cœur peut être rassuré devant Dieu. Parfois, c'est vrai, nous ne nous sentons pas à la hauteur. Nous voyons tout ce que nous faisons de travers. Et bien souvent, nous nous sentons coupables. Mais voilà notre grand réconfort. Dieu est plus grand que notre cœur. Il sait tout ce qui est au plus profond de nous-mêmes. Il est l'ultime juge. Il sait quel changement il a produit lui-même en nous. Et l'un de ces changements, c'est l'amour que nous portons à celles et ceux qui font partie de la famille de Dieu. Parce que cet amour-là ne s'invente pas. Il nous vient de Dieu. Et si notre cœur nous condamne pour nos manquements, nous avons un Dieu qui sait pardonner celles et ceux qui se tournent vers lui. Voilà pourquoi nous pouvons être rassurés devant lui. Mais continuons avec le verset 21. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a lui-même prescrit. Est-il possible que notre cœur ne nous condamne pas ? Que notre conscience ne signale pas quelques écarts dans notre conduite ? En fait, si nous avons fait la paix avec Dieu, si nous avons reçu son pardon, y compris pour les péchés que nous ignorons, mais pour lesquels nous avons demandé pardon, eh bien, notre conscience n'a plus rien à nous reprocher. Et nous pouvons alors être pleins d'assurance. Voilà ce qu'affirme le verset 21. Nous pouvons être pleins d'assurance. Et cela a directement une conséquence sur notre vie de prière. Lorsque vous voyez le verset 22, il nous donne ce que nous lui demandons. Ce sont des passages dans la Bible qui nous font parfois rêver. Dieu nous donne ce que nous lui demandons. Il n'y a pas de peut-être. Alors, il ne faudrait pas comprendre ce verset 22, comme si notre obéissance était une monnaie d'échange pour obtenir de Dieu ce que nous lui demandons. Vraiment, il ne faudrait pas comprendre ce verset comme si plus nous obéissons et plus Dieu va nous écouter. Non. Parce que l'exaucement n'est pas une récompense à nos bonnes actions. Vous voulez savoir pourquoi ? Parce que Dieu n'exauce que ce qu'il a décidé. Dieu n'exauce que ce qui fait partie de sa volonté. Et notez bien que c'est dans la mesure où nous faisons ce qui lui plaît, et en particulier ici le fait d'avoir foi en Jésus-Christ et le fait d'aimer nos frères et sœurs, donc c'est dans la mesure où nous faisons ce qui lui plaît que nous marchons dans sa volonté. Et vous voyez ici que foi et amour, au verset 23, foi et amour vont de pair. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux Galates, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, mais c'est d'avoir une foi qui agit par amour. C'est d'avoir une foi qui agit par amour. Et alors que nous obéissons à sa volonté en acte, eh bien, nos prières vont aussi par conséquent s'aligner sur ce que Dieu veut. Et voilà pourquoi Dieu nous donne ce que nous demandons. Parce que nous allons commencer à prier selon sa volonté. Tout comme nos actes s'alignent sur sa volonté. Et c'est pourquoi il est si important de rechercher dans la Bible ce que Dieu veut. De prier à partir de sa parole. Et pour notre texte, c'est très clair. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres par des actes concrets. Si nous demandons chacun à Dieu qu'il nous aide à mettre en pratique correctement ce commandement de nous aimer les uns les autres, est-ce que vous pensez que Dieu ne nous exaucera pas ? Et voici un dernier élément qui doit encore renforcer notre assurance devant Dieu. Le verset 24. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. L'assurance nous vient de tout ce que Dieu a fait pour nous. Et si nous devions compter sur nos propres forces, sur nos propres œuvres, nous aurions bien raison de douter. Nous aurions bien raison de manquer d'assurance. Parce que très clairement, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais il se trouve que notre salut a été accompli par quelqu'un d'autre, par Jésus, qui a donné sa vie pour nous. Nous l'avons lu. Et dès le moment où nous avons arrêté de compter sur nous-mêmes, dès le moment où nous avons arrêté de compter sur nos propres bonnes œuvres, pour admettre que Jésus seul peut nous sauver, eh bien nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit en nous est la garantie que nous sommes à lui. C'est la présence de l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables d'obéir à ses commandements, et notamment celui d'aimer nos frères et sœurs, au point de donner notre vie pour eux. Sans l'Esprit de Dieu, cela est impossible. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas aimer correctement. D'ailleurs, l'amour fait partie du fruit de l'Esprit, le fruit que l'Esprit produit à travers nos actions. Nous voyons cela dans Galates chapitre 5, verset 22. L'amour fait partie du fruit de l'Esprit. Donc, sans l'Esprit de Dieu, il est impossible d'aimer comme Dieu le veut. Et si, essayons de suivre le raisonnement, et si nous sommes en train de faire ce qu'il commande, si nous sommes en train de faire ce que Dieu nous commande, cela signifie effectivement que nous demeurons en lui, en communion avec lui, mais aussi que lui demeure en nous par son Esprit. Pour le dire encore autrement, si nous sommes en train d'agir comme Dieu nous le demande de le faire, eh bien, ça montre bien que son Esprit est en train d'agir en nous. Nous n'avons pas besoin de parler en langue. Nous n'avons pas besoin d'une expérience qui nous mette en extase pour avoir l'assurance que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous. Et dès lors que nous faisons ce qui plaît à Dieu, nous savons qu'il agit en nous. Le verset 24 l'affirme comme une vérité qui est digne de confiance. Mes amis, nous avons besoin d'une telle assurance alors que nous vivons des temps d'épreuve. Nous avons besoin de certitude quand notre monde s'effondre, quand les jours sont mauvais, quand les circonstances chamboulent notre quotidien. Et notre assurance, notre confiance repose sur ce que Dieu dit dans sa parole. Dieu ne s'amuse pas à nous donner, puis à nous retirer son esprit. Pour résumer, mettons-nous en action. Aimons-nous les uns les autres concrètement. Et alors que nous obéissons, Dieu a déjà commencé à agir en nous. Et s'il agit en nous par son esprit, nous pouvons être remplis d'assurance devant lui. Car ce qu'il a commencé en nous, et ça nous le lisons notamment dans l'Épître aux Philippiens, ce qu'il a commencé en nous, nous pouvons être certains qu'il achèvera parfaitement au retour de Jésus. Donc si Dieu a commencé à agir en nous, nous pouvons être sûrs qu'il nous tiendra par la main jusqu'au bout. Vous avez maintenant quelques éléments de réponse pour répondre à ceux qui douteraient de leur salut. La vie chrétienne, c'est suivre Jésus et observer ce qu'il a prescrit, en particulier l'amour fraternel et mutuel. Et l'Église que nous formons peut aussi le vivre, malgré le confinement. L'Église peut le vivre par de nombreux actes d'amour. Et nous le faisons par obéissance à Dieu. Nous le faisons par amour pour Dieu, parce que nous savons que c'est ce qui lui plaît. L'amour fraternel, c'est la marque des chrétiens, de celles et ceux qui appartiennent à Dieu. Un amour fort qui conforte notre assurance devant Dieu. Dieu veut, je le répète, Dieu veut que nous nous aimions par des actes concrets envers les autres et qu'ainsi nous venions à lui avec une pleine assurance. Et si tu ne t'es pas encore positionné par rapport à Dieu, ne rejette pas son appel cet après-midi. Jésus a donné sa vie pour que ceux qui placent leur confiance en lui puissent être sauvés. Et le résultat, c'est que ces mêmes personnes aiment à leur tour d'un amour qui ne se trouve pas dans le monde. Le résultat, c'est que ces personnes vivent avec l'assurance qu'elles ont la vie éternelle et qu'elles reçoivent ce qu'elles demandent à Dieu. Et c'est une assurance que tu peux aussi avoir si tu te confies en Jésus-Christ et que tu le laisses te transformer. Alors j'aimerais juste terminer par le défi collectif, un défi de 30 jours que je vous propose de relever ensemble, que durant 30 jours, nous puissions spécifiquement prier les uns pour les autres, à raison au moins d'une personne par jour. Et vous pouvez lister dès aujourd'hui 30 personnes pour qui vous allez prier durant les mois de mars et d'avril. Et vous pouvez commencer avec les membres de votre groupe de maison, par exemple. Ou bien choisir les membres d'un des groupes WhatsApp. Maintenant, on en a plein. Et puis, compléter avec les personnes de votre choix. 30 personnes pour 30 jours. Et puis, le petit plus que je vous invite à faire aussi, c'est qu'après avoir prié pour cette personne, vous puissiez envoyer un message à cette personne pour qui vous avez prié. Et que vous puissiez lui dire que vous avez prié pour elle. Et que vous puissiez l'encourager, tout simplement. Voilà le défi de 30 jours que je vous propose de relever ensemble. Je vous invite à prier. Nous voulons te rendre grâce, Père, parce que ta parole est tellement efficace. Elle est capable de parler à notre raison, à notre cœur, à notre intelligence. Elle est capable de bouleverser nos sentiments aussi. Et nous sommes forcément humbles devant toi en considérant ce que tu nous dis dans ta parole, le fait de nous aimer les uns les autres. Seigneur, pardonne-nous parce que parfois nous le faisons de manière tellement imparfaite ou de manière tellement négligée. Mais accorde-nous, par ton esprit, la capacité de nous aimer comme tu le désires, comme tu le demandes. Parce que c'est vrai, ce sera un témoignage, non seulement pour le monde, mais c'est aussi pour nous une manière de renforcer notre assurance devant toi. De savoir que, puisque j'aime mes frères et sœurs, eh bien, je peux être confiant que tu es bien en train d'agir dans ma vie. Vraiment, Seigneur, que les uns et les autres puissent être encouragés encore par ta parole, que tu nous interpelles sur ce devoir, ce commandement que tu nous laisses de nous aimer les uns les autres, d'une manière si forte, de manière à donner notre vie pour les autres. Parce que toi, Seigneur, tu n'as pas hésité à donner ton Fils pour nous. Alors oui, nous te louons pour cela. Nous te louons parce que, assurément, ce que tu as commencé en nous, tu l'achèveras au jour du retour de notre Seigneur Jésus. À toi soit la gloire dans notre vie et pour l'éternité. Amen.